C'était un roi qui était avant lui. Peut-être qu'Ézéchias se souvenait comment est-ce que Jéricho avait été pris. Souvenez-vous, à Jéricho, quand Josué s'approche, il y a un homme qui se présente devant lui avec son épée. Puis Josué lui demande, « Pour nous ou contre nous? » Et puis l'homme, il dit, « Je suis pour vous. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Et lui sur lequel que tu te tiens est saint, enlève tes sandales. Et on comprend que Dieu était avec lui, que Dieu allait donner la ville de Jéricho à Josué et à tout son peuple, parce que c'est Dieu qui allait le faire. Et comment est-ce qu'avec l'histoire de Jéricho, et là on part une autre histoire, mais qui me touche beaucoup, comment est-ce que le peuple de Dieu a pris une ville, puis a fait tomber des murailles qui étaient humainement imprenables avec le peuple, un peuple qui avait vécu dans le désert, qui était des bohémiens, et puis comment est-ce que finalement, en faisant le tour de la ville, que Dieu leur a donné, parce que c'est l'Éternel qui leur a donné. Peut-être qu'Ézéchias se souvenait des histoires de son peuple dans le passé, comment est-ce que Dieu avait agi, puis comment est-ce que Dieu avait été fidèle. Peut-être que, souvenez-vous, l'histoire d'Élisée et le serviteur. Élisée avait un serviteur, et puis arrive la guerre, et puis le serviteur commence à avoir peur, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Puis là, il commence à trembler, et puis là, Élisée, il prie Dieu, puis il dit, « Rouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit ce qu'il en est vraiment. » Le serviteur, ses yeux se sont ouverts sur le monde spirituel, puis il a vu des chars, une armée, l'armée de Dieu qui est là dans la vallée, qui est prête à attaquer, et parce que Dieu allait leur donner la victoire. Ézéchias avait cette confiance-là en Dieu. Ézéchias avait placé sa foi en Dieu. En qui je place ma confiance quand vient l'épreuve? Je dois la placer en Dieu parce que c'est Dieu qui donne la victoire. C'est lui qui va me faire passer au travers de l'épreuve. Oui, Dieu permet que je vive une épreuve, mais c'est ce même Dieu-là aussi, cette même relation-là que j'ai avec Dieu qui va me permettre de passer au travers aussi et d'en sortir victorieux. Le temps passe vite un matin. J'ai apporté, je m'amusais à regarder quelques textes qui sont pleins de promesses pour nos vies quand on passe à travers des épreuves. Les Écritures sont bourrées de textes pour votre vie, pour ma vie, des promesses, et on doit s'en souvenir. C'est ça qui va faire grandir notre foi, parce qu'on va se souvenir comment est-ce que Dieu a toujours été fidèle. Laissez-moi vous en lire quelques-uns. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 3 et 4. Psaume 45, 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Jean 14, 1, qu'est-ce que ça dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. C'est Jésus qui parle. Psaume 23, vous le connaissez bien. « Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » J'ai deux pages pleines ici, là. Si vous en voulez une copie, je vous en laisserai. Mais il y a plein de textes comme ça dans les Écritures qui nous encouragent. Est-ce que David est en train de dire « Quand je mets un pied dans la vallée de l'ombre de la mort, tu m'y retires immédiatement? » Non. J'y vais. Puis je vais passer jusque dans le fond, puis je vais remonter, mais je crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Dieu est là. Dieu est là pour t'accompagner dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans tes angoisses. Dieu marche avec toi. Et puis quand on passe dans la vallée de Baca, qu'est-ce que Dieu fait? Il transforme les pleurs, on la transforme à cause de la confiance qu'on place en lui, les pleurs en pluie de bénédiction. Et quand on place notre confiance en Dieu, Dieu nous en relève. Et c'est ce que Ézéchias est en train de dire dans le chapitre 32, versets 6 à 8. Verset 8, « Avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. On va continuer de lire les versets 9 à 16. Je pense qu'on va terminer avec ça ce matin, puis je vais garder le reste de mes 8 autres pages la semaine prochaine ou peut-être l'autre. On va lire, c'est ça, les versets 9 à 16. Après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces et il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. On arrête là 30 secondes. Sennachérib est en train d'attaquer. Il était prêt pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias. Il prépare le terrain. L'ennemi s'en vient. il s'en vient avec son armée, toutes ses forces. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une armée comme ça qui s'en vient. Et ça doit être impressionnant. Et maintenant, la Syrie s'en vient vers eux. Et puis, pour leur dire, verset 10, « Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? » Pour eux, c'était incompréhensible. Vous vous êtes fait un bunker avec Jérusalem, vous restez là-dedans, puis vous pensez que vous êtes pas dans la détresse. En quoi est-ce que vous placez votre confiance? On connaît la réponse, c'était Dieu. « Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous délivrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums? » Des parfums? C'est intéressant de voir comment est-ce que la réputation d'Ézéchias s'est rendue jusque là-bas. Les Assyriens arrivent et ils disent « C'est pas lui, Ézéchias, là, qui a anéanti toutes les vos idoles, tous les autels, puis qui vous a obligé à aller adorer un seul Dieu. » Ben oui, justement, c'était Ézéchias. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est miner la confiance du peuple envers son roi. Vous êtes pris dans Jérusalem, vous ne pouvez pas vous en sortir. Regardez verset 13. « Ne saviez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? » Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et que ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main. Et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? » Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. L'ennemi, quand il se présente, il fait peur. Il est loquace dans un sens où il parle beaucoup. Puis ce qu'il veut faire, c'est miner notre confiance en Dieu. Est-ce que tu es sûr? Vous souvenez-vous que Satan s'était pris de la même façon avec Adam et Ève? « Es-tu sûr que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Est-ce que vous êtes sûr que votre roi est en train de faire la bonne chose? Est-ce que vous pensez, là, regardez là, notre historique, là, partout où la Syrie va, moi et mes pères, on écrase tout le monde. Aucune nation nous a résisté. Ils sont où les rois là, de ces autres nations-là? Ils sont morts. Ils sont où les dieux de ces autres nations-là? On les a renversés. Il n'y a rien qui nous résiste, rien. » L'ennemi est là, puis il peut faire peur. Dans la détresse, l'épreuve, mais il serait facile que de se laisser aller au découragement. Il serait facile que d'avoir peur puis de s'inquiéter, d'avoir peur de l'ennemi, d'avoir peur de l'épreuve dans laquelle on est en train de vivre, à savoir ce que je vais passer au travers, ou les difficultés que je vis présentement, peut-être sont tellement difficiles que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de m'en sortir. Il serait facile d'être impressionné par l'ennemi ou peut-être notre incapacité. Mon ennemi est tellement grand, je ne serais pas capable. Moi, je suis tellement faible, je ne serais pas capable de me battre contre cette armée-là. Il serait dangereux et facile de commencer à croire au mensonge. L'ennemi est en train de dire du mensonge. Il est en train de remettre en doute la confiance en l'Éternel. Il est en train de dire la plus grande profanation qu'il y avait. Ton Dieu n'est pas meilleur que toutes les autres idoles. Et ça, c'est grave. Il venait de signer son arrêt de mort. Je suis en train de vendre le punch, là. Mais il venait de signer son arrêt de mort en disant ça, en disant « L'Éternel n'est pas mieux que toutes les autres idoles. » Mais il ne faut pas croire aux mensonges de ce que l'ennemi veut nous faire croire à travers l'épreuve ou ce que notre confiance, si elle défaille un peu, quand il y a du mensonge, peut-être que ça serait vrai. Peut-être que ça pourrait m'aider. Peut-être que ça va m'aider à me relever. Il ne faut pas croire aux mensonges. Il serait facile de plus écouter les hommes et les femmes de Dieu qui veulent nous ramener à la raison. Ézéchias est un homme de Dieu et le serviteur qui vient est en train de remettre en question le bon sens du roi. Si le peuple avait abdiqué, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait été dispersé. Il aurait été esclave dans un autre pays qui n'est pas le leur. Et puis, mais ils n'ont pas abdiqué. Puis ils ont placé leur confiance en Dieu. En qui je place ma confiance quand vient l'épreuve? Ça doit être en Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet l'épreuve dans ma vie? Parce que Dieu veut me fortifier. Parce que Dieu veut me faire sortir à travers le petit trou comme ça, qui est peut-être difficile, mais qui est bon pour ma vie. ma vie, ma relation avec lui. Mais je dois continuer de placer ma confiance en Dieu. Et présentement, même si je ne vis pas l'épreuve, peut-être que je vais la vivre, je ne sais pas quand est-ce que je vais la vivre, mais je dois avoir une habitude de fidélité avec Dieu, dans ma relation avec lui, que de l'entretenir, que de faire le bien aussi, comme de faire les bonnes actions, de faire l'obéissance, comme Ézéchias a fait. Et on va finir la suite la semaine prochaine, mais Ézéchias a fait le bien et ça lui a porté fruit aussi. Ça a été bon pour lui, une conclusion positive pour sa vie. Mais c'est ce qu'on doit appliquer dans notre propre vie aussi. Ou est-ce qu'on doit voir les épreuves comme quelque chose qui est bonne pour nous? J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir terminé parce qu'il me reste un autre point, mais on va arrêter là. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tu nous dis que on devrait percevoir les épreuves comme un sujet de joie, parce que c'est pour notre bien. Tu nous dis ça dans les Écritures. Seigneur, je te prie que tu puisses changer nos pensées, changer notre cœur, Seigneur, nous ramener à la réalité, à la vérité, à savoir que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Aussi logique qu'on ne se débarrasserait pas, Seigneur, d'un plâtre ou de quelconque instrument qui répare notre état, ces épreuves-là, Seigneur, sont bonnes pour nous aussi. Puis on veut te dire merci, parce que c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous considères comme des fils, que tu nous châties, que tu permets qu'on ait des épreuves, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour ton amour. On veut t'adorer ce matin pour ça et transformer en même temps nos pensées pour avoir la bonne perspective de continuer de marcher avec toi. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie.